Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Énervé. C'est le dernier de la semaine, mais toujours en double, hein, 18h en avant-première sur franceinter.fr et en podcast, ça marche. 22h minuit à l'antenne comme tout le monde, ça marche encore mieux. Ce soir, on voit grand et en série avec nos invités. Sylvie Testu en prof d'allemand, c'est une première dans la première série d'Amazon France, Deutschland. Presque une histoire de migrants, c'est l'arrivée dans un petit village des Landes, au bord de la faillite, d'une centaine d'Allemands, le patron et les salariés d'une entreprise d'automobile délocalisée. Alors forcément, c'est un carambolage. Sylvie Testu, vous avez un avantage sur les autres habitants. Votre personnage connaît l'allemand. Bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, un monument de l'art contemporain. Philippe Pasqua voit toujours plus grand. Peintre, dessinateur, sculpteur, il se surexpose actuellement. Allez, juste un indice, un requin chromé de 10 mètres dans le parc de Chamarandes, c'est colossal. Philippe Pasqua, bonsoir.
Bonsoir.
Jeudi, c'est le jour des nouveautés nouvelles. Musicales, bien sûr, Marion Guilbeault.
Oui, Laurent, rêve, cauchemar, songe, chimère, ce sera sous le signe de l'activité nocturne cette semaine.
Et dans le Énervé la suite ce soir, on va rendre un hommage posthume à un des super-héros des comics Marvel, enfin le super-héros des comics Marvel, c'est Stan Lee, un créateur de mythologie, il vient de nous quitter.
Oui, effectivement, Stan Lee, c'est à Spider-Man un petit peu comme Walt Disney était
à Bambi.
À Bambi ou à Mickey, plutôt, Laurent. Donc, quatre super-héros en tenue de ville pour en parler tout à l'heure. Philippe Gedge, journaliste au Point Pop. Xavier Fournier, journaliste et rédacteur en chef de Comic Box et une référence dans le milieu. Jean-Marc Lenné, il est tout en un, historien, traducteur, éditeur, un grand spécialiste de la BD américaine.
C'est l'invité couteau suisse.
Et Mathilde Loire, journaliste très pop culture pour Numérama et Pixel.
Mais c'est parfait, on vous retrouve tout à l'heure en deuxième partie, le NRV. On y va.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Sylvie Testu en série, ça commence sur Amazon Prime Video à partir du 30 novembre dans Deutschland. Philippe Pasqua a deux expositions monumentales à Chamarandes des galeries The Storage à Saint-Ouen-l'Aumône. Vous vous connaissiez tous les deux ?
Eh non.
Non.
On vient de se rencontrer.
C'est
on a
ça.
Déjà rigolé.
Oui.
Avant que l'émission commence.
Vous qui avez joué l'épouse d'un peintre.
Oui, c'est ça. Enfin, un peintre qui m'avait l'air plus torturé quand même, parce que son sourire est quand même plus flamboyant.
Ah oui, le sourire de Pasqua est plus flamboyant que celui
de Giacometti.
De Giacometti.
Ça, c'est à l'extérieur, ça.
Ah oui, à l'intérieur, un grand torturé.
C'est normal, sans ça, il n'y aurait pas de paradoxe. Et il n'y a pas d'art.
Une culture serrée, télé, Philippe Pasqua, de votre côté. Pour regarder ça, vous avez le temps, vu tout ce que vous produisez ?
Non.
Voilà, c'est ça.
C'est ça, pas le temps. Je crois que j'ai même pas la télé.
En plus, c'est tellement addictif que vaut mieux pas plonger dedans dans ce cas-là.
C'est ça, c'est film, plutôt film, mais télé, non. Non, pas trop.
Mais vous n'avez pas le temps. Par exemple, en deux ans, entre 95 et 97, je lisais ça encore récemment, un millier d'œuvres. Un millier de peinture. Donc vous voyez.
Ah non, quand même pas.
Oh, allez,
mais non, mais
presque.
Non, c'est pas possible.
Arrêtez maintenant, il me fait peur.
Mais voilà, vous voyez, c'est pas exprès.
Je peux pas peindre un millier de peintures.
Non, mais quand même, mais énormément quand même.
Non, oui, non, mais parce qu'en fait, je pense que ça englobe toutes les œuvres, c'est-à-dire sculptures, dessins, photos, peintures, donc on peut dire. Mais un millier, c'est beaucoup.
Mais un millier, c'est quand même beaucoup.
Moi tout seul, je suis un super-héros.
La vôtre de culture de série télé, c'est vite elle passe par quoi avant d'arriver à Deutschland ?
Ben moi, je regarde quelques-unes quand même, alors pas forcément sur, sur des tablettes quand je suis en voyage ou quoi. Et moi, j'ai commencé avec des séries américaines. Et puis finalement, j'aime beaucoup, moi, Le Bureau des légendes, par exemple.
Ah, super.
Il y a des séries quand même qui sont super. Hein.
10% aussi.
10%
oui, sûrement,
aussi,
sûrement.
Ouais.
10%, ouais.
Et oui, alors c'est vrai que comme je regarde pas souvent la télévision, parce que c'est vrai que c'est difficile d'être au rendez-vous, je regarde en replay, mais je trouve ça formidable. Ouais. Il y a des séries quand même qui sont top. Celle-là avec Claire Danes, qui est un peu le...
Homeland.
C'est super,
voilà. Aussi.
Et il y a une série israélienne qui est quand même dingue, qui s'appelle Fauda.
Ah, je crois que j'en ai vu un ou deux.
Vous pouvez pas rater ça.
Si, c'est bien, Fauda. J'en ai vu un ou deux. Oui, oui, c'est ça.
C'est du délire,
c'est
non
sur les agents secrets, c'est tout un truc infiltré. Les...
Oui, voilà, ce sont des infiltrés, ouais. C'est, ouais. Ouais, c'est super.
Ouais.
Alors, il y a eu des apparitions déjà pour vous dans Fais pas ci, fais pas ça. Il y a eu des téléfilms, je me rappelle de Louise Michel. Mais c'est la première fois que vous intégrez véritablement une série en 10 épisodes ?
Oui, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois. D'ailleurs, j'étais assez étonnée qu'on fasse appel à moi.
Pour quelle raison vous étiez étonnée ?
Bah parce que c'est quand même souvent un peu des réseaux comme ça qui sont qu'on imagine fermés finalement. Et ça n'est pas tant que ça puisque ils ont pris aussi Marianne Chazelle. Ils ont pris des acteurs allemands que je connaissais pas très bien mais que j'avais vu un petit peu parce que moi je tourne en Allemagne de temps en temps.
Et on va y revenir justement.
Et qui ont intégré aussi la série. En fait, c'était En fait, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'Amazon, c'est leur première série.
C'est leur première série, comme par exemple Netflix France, c'était Marseille.
Voilà, ouais. C'est ça. Et donc, il y a un challenge pour tout le monde. C'est-à-dire pour nous, par exemple, on nous a parlé du concept, mais c'était pas fini d'être écrit. Donc, en fait, on était tous un peu au bord du truc. Et moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez enthousiasmant. Et surtout, en plus, quand on nous dit, en fait, c'est des Allemands qui arrivent dans un petit village français avec la culture.
Aujourd'hui.
Mais même avec la culture qu'on trimballe, franchement, il y avait de quoi rigoler.
Et c'est pour ça que je parlais de carambolage tout à l'heure, c'est le programme d'Arte.
On est les bons clients pour ça, quoi. Et ils n'ont pas raté les effets de ça. Ça commence avec un gamin qui attend les voitures allemandes qui arrivent et il se met à courir. Il est en culotte courte. Franchement, la référence est énorme. Il dit, ils arrivent! Moi, j'y suis restée. Et puis, on voit dans les premières minutes, pareil, Helmut Kohl et Mitterrand qui se tiennent la main. Tout ça se casse la figure joyeusement. Et c'est parti.
La vie de ce village. On avait fait appel à vous avant pour des séries télé ou c'est vraiment la première fois?
Oui, mais des séries télé plus classiques. Plus classiques, en fait, qui étaient des mini-séries de 4 épisodes, vous savez, pour une chaîne hertzienne et choses comme ça. Ça n'était pas pour moi, non pas que j'étais trop snob pour le faire, mais on se projette à l'intérieur d'un personnage ou pas, quoi. Voilà. C'était pas pour moi, ça s'est pas fait, quoi.
Deux expositions, sinon rien pour Philippe Pasqua. Un mot d'abord pour comprendre ce que vous mettez en scène dans le parc et dans le château de Chamarandes sous le titre Allégoria. Ça veut dire quoi ce titre pour vous?
C'est par rapport aux œuvres. Donc, pour moi, c'est une allégorie. Donc, toutes les œuvres. Donc, puis j'aimais bien, ça sonnait bien.
Ça sonne bien.
Ça s'écrit, c'est beau, ouais. Ça s'écrit bien sur un livre.
C'est-à-dire que toutes les œuvres sont des allégories. Voilà, un requin chromé de 10 mètres, c'est l'allégorie de quoi?
Pour moi, en fait, l'idée, c'est ce requin, il a commencé à Monaco. L'idée de ce requin a commencé à Monaco parce que son portique, quand on le voit, c'est sa croix pour moi. C'est comme s'il était crucifié. Et un peu toutes les œuvres, c'est un peu comme ça. Donc la tortue, on ne parle pas de la... Si, elle est aussi à Chamarandes.
Elle est aussi à Chamarandes, la tortue.
Hein. Dans les filets, morte, justement, étouffée par tout ce qu'on peut trouver. Donc c'était au départ, c'était vraiment une cause pour défendre et dénoncer exactement ce qui se passe, donc tout ce qui est un peu dans l'air du temps, etc. Tout le monde se bat un peu pour ça aujourd'hui, pour faire prendre conscience un peu de la gravité des choses. Et donc l'expo était vraiment sur ce thème à Monaco. Elle a dérivé un petit peu sur Chamarandes, on a mis d'autres pièces exactement. Mais bon, ce requin, c'est vrai, au centre de l'allée face au château.
Ça, c'est quand même, on ne peut pas le louper.
Et maintenant, il est aussi au storage. Oui. D'ailleurs, il se balade et là, après, je pense qu'il va partir au Canada.
On vous a demandé à tous les deux des sons qui vous ont marqué pour faire plus amplement connaissance. On a un petit problème de son aujourd'hui, on ne peut rien vous balancer. Mais vous êtes prêts, je crois, à les faire.
On va y aller.
Testu, premier son pour vous.
Alors, premier son, vous allez voir comme je le fais très très bien, vous allez voir, et vous allez le reconnaître très bien. Est-ce que vous vous souvenez de ça?
Bien sûr, mais vous auriez même pu le faire. C'était la pub d'Hymne.
Voilà, c'était la pub d'Hymne. Et non, je me sentais pas de le chanter comme ça, à capella, tout de suite, ouais. Et je sais pas, ça m'a marqué. C'était dans les années 80. J'avais même pas 10 ans. Je croyais que ces filles, elles étaient sublimes. Elles étaient hyper fières. Et oui, j'avais envie de porter des collants, moi aussi.
C'est vrai que c'était une pub sexy.
C'était une pub super sexy, ouais.
Ouais, puis elle était pleine
l'attendait
de peps.
Presque. Ouais. Hein, on l'attendait.
Ouais. Et on avait envie de danser. Et d'ailleurs, moi
il y avait toute une saga, d'ailleurs.
Je ne joue pas de musique, mais en fait, pour un film, j'ai dû apprendre quelques rudiments de la clarinette. Et j'ai demandé au type de m'apprendre à jouer la musique de Dim. Et j'y arrive. Un ou deux canards de temps en temps.
La prochaine fois, vous viendrez avec votre clarinette.
C'est ça.
Philippe Pasqua, faites-nous le son.
Bah moi, c'était les cigales.
Alors, allons-y.
Je sais pas si je le fais bien.
Ben si, c'est pas mal. Mais c'est super.
C'est le son de mon enfance. Je suis né à Grasse, dans le sud. Donc, je me rappelle de ces cigales, des odeurs, du soleil.
Dans quel milieu vous êtes né pour être aujourd'hui peintre? Et un peintre international, Philippe Pasqua.
Milieu, ma mère comptable, rien à voir.
Rien à voir.
Mon grand-père s'occupait de magasins de moto avec ma grand-mère.
Rien à voir.
Rien à voir. Et mon oncle Charles, politique, donc rien à voir.
Alors,
le dis avant tout le monde, rien à voir.
Mais
j'ai quand même fait son portrait.
Ouais, c'est vrai. Et il a apprécié?
Oui, il aimait beaucoup suivre... C'est un homme qui avait beaucoup d'humour.
Charles Pasqua, oui.
Voilà, et il aimait beaucoup suivre le déroulement de la carrière artistique.
Il y avait des œuvres qui lui résistaient un petit peu quand même? Du style des nuls, les pattes écartées.
Non, il était très bon.
2 mètres sur 2 mètres.
Très bon public.
Même pour ça aussi.
On n'en parlait pas.
Ouais, je peux imaginer. Un autre son pour vous.
Alors
c'était quoi déjà?
Alors, c'était le générique de France 2.
Ouais.
Avec cette pomme qui tournait, je ne sais pas si vous vous en souvenez.
Ah, oui, ça faisait...
Alors, de nouveau, hein, je chante pas super bien, on est d'accord, j'avais fait 10, mais ça faisait « Ah, doub, 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 tabadabadam
» Mais vous deviez être un karaoké géant dans la télévision cette fois, alors, Sylvie Testu.
Alors, moi, je retenais très très bien tous les génériques des
toutes
des
les pubs, je peux les chanter. Ouais, si la purée mousseline, je peux le faire aussi, c'est atroce. Ouais.
J'entrais dans le tube cathodique. Ah non, mais vraiment, je me souviens d'Alice Sapritch, je me souviens de... Est-ce que j'ai l'air d'être une femme qui fait des économies? Eh bien, j'en fais.
Exactement ça. Avec même la gestuelle. Avec la main sur le... Avec la main près du cou.
Avec les jarres. Eh bien, j'en fais. On n'a pas le droit de le dire. Eh oui.
Vous continuez à regarder beaucoup la télévision?
Non, alors j'ai pas beaucoup de temps, mais en revanche... je regarde des replays quand même. Si, je voyage beaucoup. Et on s'ennuie, en fait, on se fait transporter. Donc j'ai une tablette, je télécharge des trucs. Alors maintenant sur Amazon, bien entendu.
Bien entendu, avec cette série de Sleyland.
En revanche, voilà, avant, je regardais ailleurs. Je ne le ferai plus, je le promets.
Non, c'est promis, c'est fini. Et surtout pas sur Netflix non plus, bien entendu.
Et voilà, et puis évidemment, vous êtes coupé par des pubs tout le temps. Enfin voilà, donc je me tiens au courant des publicités quand même. Je sais ce qui sort, quelle est la meilleure gratounette.
Mais il y a moins de sons, non?
Philippe Pasqua.
Vous retenez encore des sons, des musiques de pub?
J'ai l'impression qu'il y en a moins. Il y en a moins.
Gutenberg a arrêté, par exemple, alors qu'il en faisait des super.
Oh là 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 là. Non, maintenant, il y a des reprises de musique.
Ouais.
Il y a un peu des, voilà, c'est un peu des tubes et puis ils les mettent dedans.
Quoi. Ouais, c'est ça. Et on voilà, nous met la Traviata pour le jambon d'Aoste ou un truc dans ce genre-là. Je crois que c'est pas la Traviata, mais c'est du Verdi. Autre son pour vous, Philippe Pasqua.
Moi, je serais incapable de chanter ni de le faire, mais c'était Run DMC au début. Et quand il est arrivé,
du rap.
Moi, ça m'a, voilà, au début du rap, les graffitis, pourquoi ça me touchait, la musique, les graffitis qui sont arrivés en France. C'était la mode d'aller tous les week-ends à New York, de s'acheter les
C'était Adidas. La mode d'aller tous les week-ends à New York.
Ouais. Non, oui, c'était oui. Dans la mouvance d'aller découvrir quand c'est arrivé en France, de repartir à New York, d'aller découvrir tout dans la rue, ce qui se passait, d'aller taguer les RER, les métros.
Ce que vous avez
là-bas.
Fait?
Moi non, mais j'avais des amis qui le faisaient régulièrement, donc j'étais un peu dans le milieu, donc c'est un peu vraiment l'adolescence, mon arrivée à Paris, etc., etc. Et ensuite. Peut vivre un petit peu à New York.
Oui, vous avez vécu deux ou trois ans, c'est ça, à New York.
Exactement, découvrir un des plus gros
très
marchands.
Très jeune, quand même.
Très jeune, oui. Et
vous étiez déjà peintre?
Oui, justement, je peignais là-bas, j'avais déjà un studio, et découvrir les marchands qu'il fallait, etc. Donc c'était vraiment au début. Et puis cette mouvance, Andy Warhol, Basquiat, Clemente, tous ces gens qui étaient entre eux, Schnabel, etc. Donc c'était vraiment une énergie dingue, et puis c'est vrai que c'est venu en même temps que ce...
Ça veut dire que vous avez exposé d'abord aux États-Unis,
non.
Avant d'exposer en France?
Non, j'ai pas exposé aux États-Unis à ce moment-là, je travaillais là-bas,
ouais.
Mais j'ai pas exposé aux États-Unis à ce moment-là, je faisais que travailler.
Et à cette époque-là, vous dessiniez quoi?
Ah, c'était très vaudou, rien à voir avec un parcours assez incroyable au niveau des styles.
Ouais.
J'étais très touché par tout ce qui était vaudou... Tête réduite, Givaro, tous ces trucs-là, un peu très religieux, les Madones, les Vierges.
Parce que vous évoluiez dans ce milieu-là?
Pas du tout. C'était, je sais pas pourquoi c'est venu, d'un coup des envies de s'exprimer avec aussi les matériaux qui allaient avec, beaucoup de matière sur les tableaux, des fois du tissu, des collages, mais de la matière, quoi. Et ça, j'aimais l'art africain, donc. Après, j'ai fait un parcours, j'ai dévié, mais c'était le...
Sérieusement dévié, on va y revenir voilà. Avec vous deux sur vos parcours respectifs. Tout à l'heure, on va retrouver Marion Guilbeault avec les nouveautés nouvelles de la semaine. Marion, mais moi je prends de l'avance avec les choses nouvelles de Bertrand Belin, un extrait de son nouvel album attendu pour le 25 janvier. Et il y a déjà deux clips qui circulent, formidables sur Internet.
Cherchant un banc bien gaulé, trouvant un banc mal gaulé, debout près d'un banc mal gaulé, assis sur ce banc mal gaulé, je chéris ton cœur, je chéris ton cœur. Adoré, dans un coin d'archipel. architecture manquée, un méandre de la cité. Allons bon, cachant à ma raison que du temps a passé, je chéris ton cœur, adoré. La nuit je parle seul, je te parle tout seul pour te dire des choses nouvelles. Je chéris ton cœur, adoré. Contournant un vaste chantier de pluie, de planches, d'acier, suspendu, songeant au sommeil mathématique des grues. Je chéris ton cœur, adoré. La nuit je parle seul. Je te parle tout seul pour te dire des choses nouvelles. Je chéris ton cœur, adoré.
Inter. Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Bon alors maintenant Martine, tu vas dire que les poubelles passent le mardi et le vendredi, d'accord?
Non, chez nous c'est le jeudi et le samedi.
Dis, Mühle ab vor.
Mühle ab vor.
Kommt.
Kommt.
Dienstags und Freitags. Schwung.
Ihre Firma. Brainstorm,
Schwung.
Brainstorm,
Schwung.
Brainstorm,
à peu près, voilà.
Oui. On n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas très doué, Marianne Chazelle, à qui vous donnez un cours d'allemand. Sylvie Testu, ça se passe dans Deutsche Langue, première série française d'Amazon. On travaille différemment pour Amazon, d'ailleurs. Comment ça se passe?
Non, on ne travaille pas du tout différemment, non. En revanche, il y a une chose qui est différente, c'est qu'il y a... Comme c'est une nouvelle tentative, tout le monde était super tendu sur les premiers épisodes en se disant « Oui, alors faut qu'on rate rien, faut que tout soit millimétré. » Et c'est vrai, il y avait une précision dans le tournage qui était folle, quoi.
5 jours de tournage par épisode, à peu près, hein, c'est ça?
Ah bah ça, je me suis pas rendu compte, en fait, pour le coup.
Le temps passe tellement vite.
Non, mais comme on a tourné tout dans le désordre, finalement, on se rend pas compte. On tourne un petit bout de l'épisode 1. Non, ce qui était étonnant, c'est sur le clap, séquence 1278, ok. Moi, ça me faisait hurler de rire. Séquence 600. Ça n'existe pas, ça,
non.
Au cinéma.
Séquence 600 au cinéma, non.
Séquence 462. Tu la connais, la 378?
c'est dingue, quoi,
le truc. Ça, c'est drôle. Ouais. Mais non, on se rend pas compte de combien de temps on met, en fait, par épisode. Oui, si vous ont dit qu'ils vous ont communiqué ça, c'est
ouais,
c'est
j'ai
vrai.
Pu lire ça en
ça
tout
va
cas.
Vite.
Ça va vite.
Mais c'est très précis. En fait, il y a un problème d'efficacité qu'on a moins, enfin, quoique maintenant ça change aussi le cinéma, mais qu'on connaît moins quand on fait du cinéma, finalement. Mais en fait, c'est plus si vrai que ça.
Vous faites une prof d'allemand, on va revenir sur l'histoire. Ouais. C'est un rapport quand même avec votre parcours, parce que vous avez commencé en Allemagne, avec même l'équivalent d'un César, hein, en 80...
oula, en 80, 80, je sais plus combien, 87
mais ou 97, je me rappelle plus. Ouais, je regarderai, je vais
dans le genre, ouais. Ouais, ouais. Et en fait, oui, ils n'avaient pas meilleur espoir, donc ils m'ont donné direct meilleure actrice.
C'est toujours ça de gagner.
C'était étonnant parce qu'à l'époque, je parlais vraiment mal allemand. Non pas qu'aujourd'hui, je sois bilingue. Hein. J'ai un fort accent. Je travaille quand même avec un coach quand je tourne en Allemagne, mais. Donc ils m'ont donné le César et j'ai
pour
été...
Au-delà du silence, 97.
Voilà, c'est ça, de Caroline Link, qui est devenue une immense star.
Immense star, oui, oui. Réalisatrice.
Elle a gagné d'ailleurs un Oscar. Ouais. Et en fait, j'ai été incapable de remercier en allemand, alors qu'on me donnait le César. Quoi. Enfin, j'ai remercié pour la fenêtre, en fait.
Ça veut dire quoi?
Eh ben, je me suis trompée de mot, je voulais dire à Caroline merci pour ta confiance, je me suis gourée, j'ai dit merci pour la fenêtre.
En allemand.
Ce qui fait que les mecs étaient hilars et je me suis dit c'est super, je suis hyper drôle.
Et le parcours a continué en Allemagne, encore aujourd'hui?
Alors j'essaye de faire au moins un film tous les deux ans, j'ai moins de temps mais bon. Oui, j'y arrive, ouais, j'y arrive. Et puis j'aime bien parce qu'il y a un côté... Il y a un côté liberté, enfin, c'est pas mon pays, je vais ailleurs, et on sait qu'on se sent vachement plus libre avec des gens qui n'attendent rien de vous quelque part.
Quelle image ils ont de vous là-bas?
Ils ont l'image, je pense, je sais pas trop, mais ils trouvent que cet accent est formidable. Autant en France, j'ai un côté, les gens attendent de moi quelque chose de lesté, autant là-bas, ils me trouvent très solaire, très mignonnette, enfin, très française, quoi.
Très glamour, française.
Oui, voilà, c'est ça. Ils adorent que je sois très française. Je pense que si je perdais mon accent, ils seraient super déçus. En fait.
Surtout pas.
Ce qui est très dur. Non, mais de toute façon, je le ferais pas. Il faudrait que je travaille trop.
Vous exposez en Allemagne?
Non. Ah. Si, j'ai fait. Si.
Ouais, mais pas beaucoup.
Non, il y a quelques temps. Enfin, il y a quelques temps. Quelques années, on va dire. J'avais fait une expo, dans une galerie allemande. Exact. Galerie.
Alors que vous exposez partout.
À Berlin, ouais.
Ou Cologne, ouais. Ouais. Alors que vous exposez partout dans le monde. L'Allemagne, donc,
résiste. On a fait des foires.
L'Europe, ouais.
Pour l'instant, non. Mais là, pour l'instant, on repart un peu sur les États-Unis. On va peut-être la Chine, on va voir. Mais là, c'est plus, ouais. Pas pour l'instant.
On retourne sur Deutschland. Donc, c'est l'histoire d'un petit village français des Landes qui ne résiste pas. Village au bord de la faillite. La mère, qui est Marianne Chazelle, décide de vendre une partie du village à un riche PDG de Bavière qui va venir s'installer avec tous ses employés. Donc, c'est la délocalisation de son entreprise d'automobile. Alors, comment le village va vivre cette occupation? Il y a des pour, il y a des contre. Vous êtes plutôt pour, Sylvie Testu. Vous êtes prof d'allemand. Ça aide. Bande annonce.
Notre région est entre mer et montagne, c'est le paradis. Soyez rassurés, j'ai trouvé la solution pour que notre village rembourse toutes ses dettes.
Comment ça?
Les Allemands arrivent! Les Allemands arrivent!
Mais non!
Mais si!
Madame le maire m'a solennellement promis qu'elle fera tout pour que vous vous sentiez comme chez vous.
Je suis pas certain que ce soit très heureux de se mettre là.
Bah pourquoi? C'est la grande place du village.
Mais il y a le monument mort là. Puis ils font oh, deux guerres perdues. Comme accueil, on aurait pu trouver plus rien, non?
Alors là, c'est une bande-annonce française, donc tout le monde parle français. Mm. Mais sur le tournage, c'était pas du tout la même chose.
Non, ça parlait allemand et français. Donc là, on était vraiment exactement dans ce que ça raconte, c'est-à-dire avec des Allemands qui parlaient, par exemple, pour qu'on s'adresse les uns aux autres, très très bien l'anglais, et les Français qui...
Qui
ne parle absolument aucune autre langue.
Que le français, ouais.
Voilà, c'est ça. Et donc, on était vraiment là-dedans. C'est-à-dire, avec eux qui trouvent que la France est tellement jolie, tellement romantique. Et puis les Français qui, parce que c'est ce qu'on aime chez nous, quelque part. Ça râle tout le temps, en fait.
Mais même au niveau du travail des acteurs.
On est toujours divisé à 50-50. Il y en a qui râlent, il y en a qui ne râlent pas. Mais même au niveau des acteurs, bien sûr.
Les acteurs allemands sont différents des acteurs français.
Non. Non, ils sont pas différents.
Ils savent leur texte, paraît-il.
Oui, ils savent leur texte, mais les Français...
Parce qu'on a beaucoup de réalisateurs ici qui viennent nous dire « Non, mais quand on travaille à l'étranger, mais ça n'a rien à voir. En France, ils arrivent, certains ne savent même pas leur texte. »
C'est parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir les acteurs auxquels ils ont proposé leur scénario.
Vous ne pouvez pas tout jouer non plus.
Non, mais c'est parce qu'ils nous en veulent énormément, c'est tout. Mais non, les Français aussi savaient leur texte. Non, la différence qu'il y a avec les acteurs allemands, c'est souvent ils ont une formation théâtrale forte. Puisque le cinéma en Allemagne est quand même moins fort que le cinéma français. En revanche, le théâtre en Allemagne, tous les acteurs passent par des conservatoires. Donc ils ont...
Et même les réalisateurs. Fassbinder était passé par le théâtre avant d'arriver au cinéma, bien
sûr. Sauf qu'il y a quand même une chose dans notre culture à nous, on est quand même beaucoup plus sanguin et beaucoup plus instinctif. On est des latins quand même, l'air de rien, et eux sont quand même plus cérébraux. Ça, c'est vrai, et c'est de par leur culture et de par leur formation. Mais au final... C'est quand même des acteurs, ils se gourent, hein, comme nous, hein, je vous le dis. Ah
bah, j'espère bien. J'espère bien que ce ne sont quand même pas des surhommes.
Je m'appelle Christ, un nom de balance.
Il y a eu deux réalisateurs aussi, bon, pour cette série, puisqu'il y a des épisodes. Ça a commencé par un réalisateur français, puis une Allemande. Est-ce qu'il y a des façons de tourner, des façons de diriger différentes?
Eh ben, exactement, dans le même sens. C'est-à-dire que c'était, donc, Denis qui lui est pourtant un réalisateur de films dit un télo, dit, enfin, c'est pas des grosses comédies. Et lui aussi, il est dans quelque chose de plus instinctif que quand c'est Annette, qui, donc la réalisatrice allemande, qui réalise. Elle, il fallait que tout soit planifié, par exemple. Elle voulait des répétitions longues avec les acteurs. Lui, il était plus dans l'instinct. Il avait envie qu'on improvise. Il voulait. Alors là, les Allemands improvisent aussi, mais ils étaient plus surpris. Nous, on était plus enclins à improviser. Marianne Chazelle, elle adore ça. Moi aussi.
Vous aussi.
Ouais, moi aussi. Oui, il faut qu'on ait une base. Il faut avoir une base et on peut en dévier. Si, sans base, on peut pas improviser, parce que d'un coup, ça devient n'importe quoi. Mais quand la base est solide, on peut improviser, bien sûr. C'est justement ça. On cherche l'accident. On cherche l'endroit où c'était pas prévu, qui peut devenir magique. Et je pense que Annette, donc la réalisatrice, qui était très bien d'ailleurs.
La réalisatrice allemande.
La réalisatrice allemande, elle avait plus d'angoisse, je crois, par rapport à ça. Elle a été positivement surprise, quoi. Denis a été très surpris par les Allemands, qu'il a trouvé formidable. Et elle a été surprise par les Français. Donc c'est merveilleux, quand même.
Vous n'avez jamais eu envie de passer, vous aussi, à la réalisation de séries télé? Ou même là, quand vous voyez les... Parce que vous avez réalisé un film, d'ailleurs, ça date maintenant, 2012.
Ouais. C'est avec Juliette Binoche. J'ai bien raison de le dire, que je suis lente. Mais... d'ailleurs, je suis à la bourre et sur le prochain film et sur le prochain
roman.
Ouais, exactement.
Donc il y a un prochain film comme réalisatrice.
Et un prochain roman. Ouais. J'essaye. On va voir. Ne disons rien. Je ne suis pas superstitieuse, mais je voudrais quand même pas défier le sort. J'aimerais bien. Ouais.
L'expérience vous a plu?
J'ai adoré ça.
Diriger tout le monde. Ah bah, toi, Coco, tu te mets là.
On dit pas ça à Juliette Binoche, on dit pas ça à Mathieu Kassovitz. Toi, Coco, tu te mets là.
Surtout à Kassovitz.
Vous le dites une fois, puis pas deux.
Non, c'est vrai que vous aviez en plus.
Non, il est hyper sympa, ouais. Hein, Mathieu.
Bah, je sais, on l'a reçu ici. Ah, ouais. Il y a une semaine, c'était formidable.
Ah ouais, il est hyper sympa.
Loin de l'image qu'on peut être emballé de lui.
Mais oui. Et puis d'ailleurs, en impro, il est super bon aussi. Non, j'ai adoré ça. Et puis vraiment, je disais action. La première fois que j'ai dit action et que j'ai vu Juliette sortir pour aller parler avec Mathieu Kassovitz, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais pour qui tu te prends d'aller chercher ces deux acteurs? Mais tu es où là? Et en plus, le pire, c'est que je leur ai demandé de faire quelque chose et ils le faisaient. J'étais à la première semaine, il m'a fallu une semaine pour me sentir à ma place, quoi, et me trouver légitime. C'est-à-dire, vaut mieux pas penser en fait. Mais j'ai dit, allez. Fais ce que tu as écrit, demande-leur, ils vont le faire, et puis ça ira très bien. Puis c'était une merveille. Maintenant, j'ai envie de recommencer, bien sûr.
Vous aviez plein de monde sur le plateau. Vous avez un atelier avec plein de gens, j'imagine, Philippe Pascaud.
Non, justement.
Ah bon? Parce que quand on voit quand même la monumentalité, on va revenir sur le travail, bien sûr, tout à l'heure. Quand on voit la monumentalité des œuvres, que ce soit l'étoile de plus de 5 mètres, que ce soit, par exemple, donc les pièces, les sculptures de plus de 10 mètres, pas d'atelier?
Ça, il y a plusieurs ateliers, on est plusieurs, mais sinon, la peinture, je suis tout seul.
Tout seul?
Tout seul dans l'atelier, et je rejoins Sylvie tout à l'heure sur le côté instinct. C'est très à l'instinct aussi. Je suis très, très à l'instinct, moi aussi, au niveau travail. Très spontané, très rapide, très. Il faut que ça. Il faut y aller, quoi.
Ça va passer, ça va casser, mais il va se passer quelque chose.
Il y a une base, mais ce côté magique, ce côté imprévu, c'est toujours assez magique, je pense. C'est un peu pareil.
On vient de parler de cinéma, de réalisation, on vient de parler de série avec vous, Sylvie Testu. Mais là, je vous ai vu dernièrement, il n'y a pas si longtemps, hein, il y a une semaine, dans Suspiria, le remake de Dario Argento, de Luca Guadagnino. Mm. Vous rappelez quel rôle vous avez dedans?
Oui, je fais Madame Griffith. Alors, c'est très court. Hein. Il avait demandé à plusieurs actrices qu'il avait identifiées, je crois, parce que moi, il ne me connaissait pas, hein, identifiées en Europe. Et puis, donc, il a... C'était pour le remake du film de Dario Argento.
De Argento, sublime.
Et donc, il avait besoin de 30 actrices. Et donc, moi, il m'a demandé de faire Madame Griffith, qui donc est une secrétaire dépressive, et qui existe hein, d'ailleurs à l'origine. Et il a rajouté juste une scène, cette scène où elle met fin à ses jours, sans dévoyer tellement de trucs.
Voilà. Tellement de choses dedans.
On a tellement ri à faire cette scène. Mais c'était un one-shot, hein, parce que sinon, il faut refaire tout le décor. On a tellement ri dans la préparation. Tout était tellement millimétré avec Tilda Swinton, donc qui était aussi coproductrice sur le film, qui regardait ça. Vraiment, c'était l'événement hein, à ce moment-là. Moi, j'ai eu les jetons. Je me suis dit, si jamais je meurs mal, c'est foutu.
On peut dire quelle est la scène? Parce que c'est quand même dément, cette scène.
Elle est démente, oui. C'est une scène où, enfin, toutes ces danseuses, femmes qui vivent dans cette école de danse.
C'est une école de danse, c'est une école, à Berlin.
Voilà, à Berlin. Où, en fait, il y a, pas des esprits mauvais, mais en fait.
Des sorcières,
on va dire. Voilà. Des mauvais sorts qui s'abattent comme ça sur les personnes les unes après les autres. Et en fait, elles ont une discussion qui est quand même tout à fait retenue, parce qu'elles n'en parlent jamais réellement. Et à un moment, elles sont toutes à table. Quand, moi, mon personnage, qui est en dépression totale, arrive et décide de mettre fin à ses jours en présence de toutes. Et alors, c'est une catastrophe, puisqu'elle s'ouvre la gorge, quoi. Et là, c'était du délire, quoi. Moi, j'avais des tuyaux partout. Ils m'avaient mis des poches de sang, mais hyper lourdes à traîner. Et c'était deux Anglais qui étaient là. Et en fait, on devait tous caler ensemble, parce que c'était un problème de rythme. Au moment où moi, je faisais le geste, le premier devait appuyer sur son bouton pour que ça jaillisse, et le deuxième sur la deuxième. C'est-à-dire, donc, la carotide était censée être sectionnée, ouais. Ça sortait, puis ensuite, elle s'ouvrait complètement la gorge, et donc le deuxième. Si eux foiraient, ou moi je foirais, c'était fini. On n'avait pas de scène.
One shot.
Et Lucas avait dit, on le tente, si on rate...
Elle mourra pas.
Voilà, elle mourra pas.
C'est super.
C'est top. C'est génial de faire des trucs comme ça. Il y a que des gens comme lui, soutenus par... Bah d'ailleurs, c'est un film Amazon aussi.
Ouais.
Soutenus par des...
Ça tombe bien.
Ouais, c'est assez dingue, ouais. Et enfin, on le regarde parce qu'il y a un monsieur
qui est là. Oui, parce qu'il y a un monsieur qui est là. On est sous le regard de
Amazon. On le regarde. C'est bien ce qu'on dit ou pas? Et donc, on dirait qu'on est des bons élèves quand même.
Non, super.
Et en fait...
Vu caché combien de se prendre...
Moi, je vais me faire mentir, tiens. Et alors, et en fait, oui, il y a que des gens comme ça qui prennent des risques à ce point, c'est-à-dire d'avoir un scénario qui soit encore en mouvement alors qu'on est en train de le tourner. C'est quand même pas dans toutes les économies qu'on peut se permettre des trucs comme ça. Et là, ça fait plaisir de faire partie de. C'est des moments qu'on n'oublie pas, quoi.
Surtout cette esthétique de film d'horreur, c'est quelque chose que vous regardez, Philippe Pasqua?
Non.
Dario Argento, pas du tout. Ah, mais je pense que ça pourrait vous plaire, parce que Dario Argento, c'est au-delà du film d'horreur.
Ouais.
C'est un baroque somptueux, enfin, c'est des années 70-80, ouais. Magnifique.
Non.
Vous y encourage.
Je vais.
Ouais, les films derrière.
Il a des séries à voir. Il a plein de devoirs tout à l'heure.
À faire, là, oui.
On va revenir avec vous, justement, Philippe Pasqua, sur la peinture, sur la sculpture, sur les dessins. Dutch, Les Landes, c'est à partir du 30 novembre sur Amazon Prime Video. Et on vous retrouve, c'est Vitesse Studio, dans Suspiria actuellement sur les écrans. Tout de suite, il incarne, on l'entend derrière nous, le rock indépendant américain depuis presque 15 ans, Hills, dans le NRV.
Fixed in a vacant stare, a little laugh, a crooked smile. Don't lift a finger while I lay dying, bone dry. You drank all the blood, my heart is bone dry. Could give you more cause you took all of it. Sha-la-la. Was a day when I did believe things you say are what you mean. Dear sweet innocent me, how much it took for me to finally see. Bone dry, you drank all the blood, my heart is bone dry. Could give you more cause you took all of it. Sha-la-la. Drifting off, lost at sea. I'll set a fire, look up for it. Looking for me, I'm a pink sunset. Bone dry, sha-la-la. You drank all the blood, my heart is bone dry. Sha-la-la. Can't give you more cause you took all of it. Sha-la-la, bone dry. Bone dry. You took
quand nos échalala.
Bone Dry, c'est signé Hills, un extrait de son dernier album de déconstruction. Alors, on aurait aimé commencer ce nouveau plateau avec vous, Philippe Pasqua, avec un son, Les Dents de la Mer. Mais comme on a un problème de son ce soir, il faut juste l'imaginer, Les Dents de la Mer, en hommage à ce requin chromé de 10 mètres que vous exposez dans le parc de Chamarandes pour votre exposition Allégoria. Philippe Pasqua, on trouve quoi d'autre dans le parc de Chamarandes? Qu'est-ce que vous avez déposé?
Une vanité en bois, complètement brûlée. Qui va vivre son temps avec la nature, avec justement les insectes. Et c'est un peu l'idée que cette œuvre soit pas protégée, nettoyée comme normalement une sculpture. On veut essayer, reste sublime, belle et tout. Là, celle-ci, elle est censée vivre.
Et pourrir sur place. Et pourrir. Entre guillemets, ouais.
Voilà, entre guillemets, ouais, pourrir.
Les dimensions?
6 mètres de haut, à peu près. C'est à peu près 10 tonnes aussi, parce que c'est tout en poutre c'est tout en chaîne en fait, avec plein de poutres qu'on a récupérées, assemblées, et ça constitue ça représente une vanité, donc un crâne avec des papillons sur la tête, et c'est assez sauvage, c'est un peu.
Il y a aussi la tortue que vous venez de voir.
La tortue, voilà, la tortue qui est en bronze, empêtrée dans ses filets, emmêlée comme ça, qui est venue mourir comme ça, comme si elle était venue, elle s'est hissée la pauvre jusqu'au musée comme ça.
Sylvie, qu'est-ce que ça vous inspire,
ce genre de... J'ai l'air d'attendre surtout. Ouais. Je me remets dessus, mais. Qui a l'air d'attendre que peut-être quelqu'un la sorte.
Peut-être. Hein, mais là, c'est un peu tard.
C'est compliqué,
bon.
Ouais.
C'est compliqué pour elle, la pauvre.
Dimension de la tortue?
5 mètres, plus la traîne qui fait comme une espèce de mariée, comme ça, qui fait 12 mètres de long.
À partir de quand vous avez travaillé la monumentalité, qui est quand même une de vos signatures, Philippe Pasqua?
Très tôt, en fait. Pas au début, parce que je ne pouvais pas, mais...
Pour des questions économiques,
ouais. Oui, dès que j'ai pu, j'ai attaqué. J'avais besoin de cette gestuelle sur les toiles, parce qu'au début, je faisais beaucoup, beaucoup de peinture. J'avais besoin de se travailler en gestuelle, de transpirer, d'y aller justement, le côté spontané.
Les plus grandes toiles, combien de mètres, aujourd'hui, que vous travaillez?
5 par 5, et je crois qu'il y a eu 6 par 3. Mais sinon, 5 par 5, j'en ai fait 2 ou 3 comme ça, des très grands portraits. En noir et blanc, ils sont assez forts. Et,
portrait de qui?
De gens que je connais, de mon ami actuel, de mon ex-ami.
Vous souriez, et de la future, non, qui va arriver. On prévient l'actuel.
et d'une petite fille qui s'appelle Aura, qui avait déjà un nom et qui avait une gueule incroyable, très jeune. Et je l'ai peinte pendant un an. J'ai fait beaucoup de portraits d'elle. Une amie. Et voilà.
Aujourd'hui, elle prend toutes ses dimensions au sens littéral du terme.
C'est ça.
Vous avez un point commun. Tout à l'heure, on n'en a pas parlé. C'était hors micro avec Sylvie Testu, mère comptable tous les deux. Mm-hmm. Et votre père était peintre, Sylvie Testu.
Oui, c'est ça. Oui, alors c'est ce que je lui disais, certainement moins glorieux que lui, puisqu'on n'en entend pas parler. Mais je ne le connais pas. J'avais écrit un bouquin là-dessus. Voilà. Et puis un film avait été fait. Et voilà, je l'ai rencontré une fois. Il était absolument charmant. Je crois qu'il a arrêté de toute façon, parce que la vie a été un peu trop dure pour lui. Mais oui, ma mère était comptable. Cool. Maintenant, elle est à la retraite. Et mon père, peintre.
C'est ça, moi aussi. Ils se sont connus, moi.
Cette peinture, elle commence comment pour vous? Alors même que rien ne vous prédisposait, que vous n'avez pas fait d'école, non, que vous êtes autodidacte.
Autodidacte.
Philippe Pasqua?
Un jour, une promenade dans Paris. Vers 17 ans, et une rencontre, mon œil s'est posé sur une couverture d'un livre des portraits de Bacon, ouais. Parce que c'était un des papes. Et ça m'a fait c'était la seule fois d'ailleurs, ça m'a fait un truc très étrange, au point de me dire, je ne sais pas pourquoi, mais ma vie, ça va être ça. Et je rentre chez moi et j'essaye de comprendre ce que c'est que la peinture, l'art, enfin tout ça, parce qu'aucune notion. Et j'y vais. Je vais au BHV, j'achète des pots de peinture parce que je pensais que c'était de la peinture en bâtiment, qu'il fallait des pinceaux, du papier craft, parce que c'était pas cher. Et on essaye de faire quelque chose, mais on sait pas quoi.
Mais bien sûr,
pas pourquoi, ouais. On sait pas quoi. Alors c'est compliqué. Et là, 15 ans de solitude.
15 ans de solitude.
Ouais, enfermé à essayer de savoir pourquoi et quoi. Et, et tout apprendre et vouloir tout connaître sur ce monde qui est le milieu de l'art.
Qui est un monde qui n'est pas facile. Justement, quand on est autodidacte, ça veut dire d'abord qu'on n'a pas de technique, mais la technique, on peut l'apprendre. Ça veut dire qu'on n'a pas de réseau, qu'on n'a pas d'appui.
On n'a rien. On est tout seul à y croire et c'est tout. Et il faut y aller. Et il faut se faire plaisir parce que je pense que c'est très égoïste. Au départ, c'est très personnel, c'est que pour moi. C'est que pour moi. Et ça l'est toujours aujourd'hui. On ne fait rien pour les autres, on ne fait que pour soi. On suit nos envies, nos idées, et ensuite on les partage. On apprécie, les autres apprécient ou pas, mais ça, on ne peut pas le savoir à l'avance.
Qu'est-ce que vous avez exposé, donc montré aux yeux du public la première fois à Paris?
Pour moi, j'appelle ça comme des éclaboussures, des ombres, on va dire plus précisément, comme des ombres. C'était très noir. C'était des ombres.
Pas figuratif, alors.
De danseuse. Parce qu'à l'époque, j'étais avec une danseuse. Alors, c'était... c'était quand même... Parce qu'on voyait quand même un personnage.
Une figuration.
Mais c'était très... J'étais pas vraiment satisfait. Enfin, je l'ai été longtemps après. C'est compliqué, après, d'être satisfait. C'est très, très compliqué.
Aujourd'hui, il y a la renommée, des expositions partout dans le monde, en France aussi. Et pour autant, j'ai l'impression que vous avez une place à part dans ce qu'on appelle le milieu autorisé de l'art contemporain. Est-ce que c'est vrai ?
Oui, un peu à part. Un peu à part parce que je ne me suis jamais mélangé, jamais mêlé, parce que je suis très solitaire. Et on est obligé d'être solitaire. Quand on peint, on est seul dans l'atelier. On peut pas, si on n'est pas dans l'atelier, Et moi, ma passion, c'est de peindre. Mais mon émotion, mon énergie, je la donne dans mes trucs. Ça me la renvoie et je suis obligé d'être là, présent et de faire. Et de faire seul.
Vous avez l'impression, le sentiment qu'il y a un snobisme de l'art contemporain qui vous évacue de leur histoire ?
Non, c'est comme ça, je ne me pose pas de questions. C'est chacun son chemin, son parcours. Moi, il est comme ça, je l'aime en plus, je l'aime. Je ne suis pas quelqu'un, je n'avais pas besoin de... Non, je suis bien comme ça, ça se passe bien, je suis heureux, puis je fais ce que j'aime.
Ah bah,
surtout, je fais ce que j'aime et j'arrive à sortir des choses qui me plaisent. Alors, c'est quand même aujourd'hui un luxe de faire ce qu'on aime, de gérer son temps et d'être libre, parce que ça, c'est vraiment être
libre.
Et
de pouvoir travailler quand même des œuvres absolument monumentales, colossales, ce qui demande un investissement financier, ce qui demande le fait qu'il y ait des collectionneurs, qu'il y ait des galeries qui suivent le travail.
Des marchands qui suivent le travail.
Faire partie du marché de l'art contemporain, même si on est un peu à part par rapport à ce que peut espérer la critique. Philippe Pasqua, juste une question. Au départ, il y a donc la peinture, le dessin, la sculpture arrive. Quand
la sculpture arrive assez tôt, mais une sculpture, ça a été ce fameux crâne aux papillons. Et les papillons sont censés représenter l'âme qui s'envole, qui part. Donc c'est pour ça le crâne, côté un peu dramatique comme ça, puis les papillons, le côté joyeux. Ça, c'était la première des premières sculptures. Elle est restée longtemps seule.
Elle était en quoi ?
En bronze. Au départ, vraiment, c'était vraiment des vrais crânes humains avec des vrais papillons. C'est tout au départ. La première chose, j'ai acheté un crâne humain. Je crois que c'était à New York, d'ailleurs. Je trouvais des papillons. Et j'ai composé comme ça cette œuvre. Et je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Il y a quelque chose qui se dégage. Ensuite, j'ai fait faire en bronze un petit peu de temps après. Et ensuite, il y en a eu une deuxième. C'était justement d'après les têtes Givaro.
Ouais.
Têtes réduites que j'ai eues. Et je l'ai faite faire en bronze. Une fonderie à New York, d'ailleurs. Travailler une fonderie à New York. Ensuite, j'ai arrêté. J'ai jamais arrêté, beaucoup de peintures, de dessins, de photos, etc. Et il y a 4-5 ans, là, j'ai fait un petit break sur la peinture et je me suis dit, je vais un peu me concentrer un peu plus sur la sculpture. J'avais besoin de choses en volume, en fait. Et là, je me suis lâché sur la sculpture, vraiment. Comme je me lâche sur la peinture, quand je me lâche vraiment, j'ai voulu faire cette expo à Monaco avec des œuvres monumentales, justement.
Il y a une certaine agressivité dans le travail, par les formes qui sont déployées, par les thèmes qui sont abordés, les vanités, des animaux toujours dans des situations, on va dire, étranges, des sexes de femmes surdimensionnés, moi j'en ai vu chez des amis, par exemple. Je me suis demandé si vous aviez été censuré parfois dans les pays où vous exposez, Philippe Pasqua, où il y a des pays qui peuvent ne pas montrer votre travail.
Alors oui, il y a eu des cas sur le Moyen-Orient, il y a eu un cas. Et il y a eu une censure en France lors d'une expo dans une galerie qui s'appelait Lucien Durand. On a dû mettre un petit panneau, on a été embêtés parce que je représentais un bébé Et ce bébé était féminin et nu. Et on m'a embêté parce que, encore une fois, une enfin, pourquoi pas un homme nu ? Alors après, je me suis amusé à refaire l'origine du monde au masculin pour contredire. Mais voilà. Et à la FIAC, une fois, on a eu un problème sur un tableau exposé il y a longtemps qui était encore un peu...
Sexuel ?
Ouais, aussi. Sur, c'était poupées Barbie. Je m'amusais avec des poupées Barbie et je leur ai fait des sexes. Alors ça n'a pas plu trop. Alors, une petite censure sur un tableau qu'on a dû retirer, je crois, de l'expo.
Oui, à ce point-là, quand même.
Ouais. Donc, on n'est pas complètement libre, alors qu'on devrait l'être. C'est de l'art. Il n'y a rien de... Il y a pire, quoi.
C'est Vitestu. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout
ouais,
ça,
bah, ça, ça déjà, ça m'afflige, mais vous savez que le cinéma, c'est pareil. Nous, on a des films comme ça qui sont diffusés dans certains pays où, subitement, ils ont un écran noir. Ah. Ils coupent pas le film, ils remontent. Parfois, aux États-Unis, ils remontent le film parce qu'ils bon, ils ont plus d'argent. Mais dans des pays comme l'Inde, moi, j'ai assisté à une projection où à un moment, bah, j'étais nue et puis voilà, c'était une scène de nue avec, enfin, d'amour avec un garçon. Et puis, et ce qui était pire, c'est qu'il y avait le son. Subitement, en plein milieu de la projo, il y a un écran noir avec le son. Je trouve que c'est encore pire, moi. Avec les gens qui faisaient ouh, ils sont pas habitués. Moi, j'étais en alu. On m'avait pas prévenu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont pas mis la scène? Je me dis, ah bah non, c'est la censure. Après, bon, on s'y fait. Finalement, on se dit, ah bon, bah alors là, il y aura pas cette scène. Ah bah non, tous les bisous étaient enlevés. Mais on entendait.
Ah, d'accord.
C'était super
tous
bizarre,
les bruits.
Quoi.
Alors, ce qui est encore plus étrange, c'est en Birmanie. En Birmanie, ils font ça en direct. Pendant la représentation, pendant la projection, il y a quelqu'un, bon, donc ils savent.
Avec
ils
ont, un voile.
Non, qui met la main. Qui met la main devant l'écran et qui, quelquefois, rate son coup. Ce qui fait qu'on voit la moitié d'un sein, bah, des choses comme ça, ça peut arriver. C'était arrivé pour Catherine Deneuve dans Belle de Jour, par exemple.
Bah, voilà.
Voilà. Où elle a vu une main qui apparaissait à un moment donné sur l'écran. Mais ça se fait en direct. La censure est directe.
Et c'est bah, quand voilà. même assez passionnant. Oui, mais t'as un cache. Voilà, un cache noir. C'est-à-dire, voilà, on voit pas l'image. Mais dans ce cas-là, faut chanter le son, quoi. Parce que ça me semble encore plus érotique.
Bah, c'est encore ah, bah, plus oui. pervers.
Ah, bah, oui.
C'est encore plus ah, dingue. Moi, je me suis dit, ça va pas, le truc.
Philippe, est-ce que vous vous auto-censurez vous-même?
Non. Moi, non. Nos limites. Ah oui, tout ce que j'ai envie de le faire, je le fais, je me pose
bah,
pas de questions.
Ça va pas, vous allez être censuré.
Non. Aucune censure.
On lui dit, hein, il veut pas comprendre.
Et le fait d'être autodidacte aujourd'hui, comment vous le vivez? Parce que chaque fois que j'ai pu lire un article, toujours c'est mentionné. Et ça devient même aujourd'hui presque un effet de signature de votre part, Philippe Pasqua, de se revendiquer de cet état-là, autodidacte.
Non, moi je le revendique jamais, si on m'en parle. Donc moi je suis autodidacte, mais je suis très content comme ça. Parce que je connais pas le côté avoir appris à l'école, etc. Donc je peux pas dire, c'est... peut-être, non, je suis très bien comme ça. De toute manière, je sais pas, c'était pas mon truc l'école, donc voilà, c'est pas jamais été mon truc, donc je suis très bien comme ça, moi, autodidacte, tranquille, j'ai appris comme j'avais envie, tranquillement.
Juste une question encore, Philippe Pasqua, par rapport à la production des œuvres, on regardait le catalogue avec Sylvie Testu, quand on voit par exemple La taille du requin, pour le déplacer, pour le démonter, pour le faire aller dans... C'est des productions presque cinématographiques.
C'est compliqué, ouais. Il faut des camions, des semi-remorques qu'on voit exceptionnels, toute une équipe, enfin tu sais, ouais, c'est... C'est un peu le problème de ces sculptures. C'est un peu le seul problème, on va dire. C'est le déplacement, le risque de l'abîmer à chaque fois, etc. Oui. C'est compliqué. Il faut...
Non, moi, je veux savoir quelles sont les maisons dans lesquelles ça va, après, au bout d'un moment, quand elles sont achetées. Combien de mètres carrés ça fait pour avoir ce...
Dans le jardin.
Des grands jardins,
on va dire. Il y a des milliardaires partout dans le monde.
Ouais. Grands jardins.
Le fait d'être le neveu de Charles Pasqua, ça ne vous a jamais posé problème?
Jamais.
Très bien. Le milieu de l'art est très tolérant.
Oui.
Philippe Pasqua ?
Oui.
C'est une bonne nouvelle.
Oui, pour ça, oui, on m'a jamais embêté avec ça.
C'est parfait. Merci à vous.
Merci.
Allegoria, c'est dans le domaine départemental de Chamarandes jusqu'au 30 décembre. Et Versus à la galerie The Storage à Saint-Ouen-les-Aumônes jusqu'au 30 avril. On a vraiment le temps pour une galerie, c'est vraiment formidable.
Exactement.
Vous restez avec nous tous les deux, Sylvie Testu et Philippe Pasqua, pour la dernière partie de l'émission. C'est les nouveautés nouvelles, signé Marion Guilbeault.
Bonjour à n'importe où, n'importe quand, pour n'importe qui.
Rendez-vous. Vous êtes des policiers?
Non, madame, des musiciens.
c'était des policiers.
En route et en mission pour le Seigneur, Laurent, comme toutes les semaines, direction le nord de la Hollande. C'est là qu'est né un des musiciens les plus singuliers de la pop du début du 21e siècle. Il s'appelle Jaco Garner. C'est un artiste qui a commencé avec une vision violette de la musique, c'est-à-dire plutôt baroque, plutôt psychédélique. Les titres de ses premiers albums parlent pour lui. Cabinet of Curiosities, Hypnophobia. On l'a comparé à ses débuts à Syd Barrett de Pink Floyd. Mais Jaco Garner ne cultive pas de nostalgie pour le patchouli. Il préfère sans doute le pavot. Il vit aujourd'hui à Lisbonne et sa musique a glissé vers des atmosphères plus cinématiques, plus cosmiques. Les formats se sont allongés. Sa voix s'est envolée dans les éthers au point de disparaître complètement sur son nouveau disque où il part dans des vagabondages sonores. Ça donne une musique mystérieuse, expérimentale, parfaite pour planer cet hiver. Volva, c'est signé Jaco Garner, c'est un extrait de son nouvel album Somnium qui sort demain chez Piass. Somnium, c'est en hommage à une des premières nouvelles de science-fiction écrite par Johannes Kepler en 1608. C'est un vrai trip ce disque. On va rester perché avec un groupe anglais de Northampton, un groupe qui s'appelle Baos, un groupe qui est né dans une école d'art, comme avant eux The Clash. C'est un groupe qui incarnait un courant musical à la fin des années 70, qu'on a appelé le gothique. Alors, rien à voir avec le mouvement architectural, sauf dans le cas d'une messe noire pratiquée dans une cathédrale gothique. Vous voyez un peu l'ambiance, Laurent? Voilà. Le gothique en musique, non, ça se caractérisait par des rythmes tribaux, un abus de synthétiseurs, des voix sépulcrales. Il y avait un côté très théâtral, très mélodramatique, voire macabre. C'est une musique qui n'a existé pratiquement qu'en Angleterre, avec des artistes comme Siouxsie, comme The Cure et Baos. Donc, le noyau dur de Baos, c'est un chanteur, Peter Murphy, un guitariste Daniel Ash. Ils se reforment régulièrement. Et ils s'étaient distingués en 1979, dès leur début, avec une chanson, Bela Lugosi's Dead, qui faisait référence à l'acteur Bela Lugosi, bien sûr, l'incarnation du vampire dans Dracula. Et pour fêter les 40 ans du groupe, parce que oui, 40 ans quand même, parce que boire le sang de jeune vierge, ça permet de vivre et de rester jeune beaucoup plus longtemps. Voilà, et ben cette chanson culte, elle est rééditée aujourd'hui dans sa version originale, c'est-à-dire plus de 9 minutes, mais on va en écouter que quelques mesures ce soir.
Bela Lugosi's dead, the bats have left the bell tower, the victims have been bled, red velvet lines, the black box. Bela Lugosi's dead. Bela Lugosi's dead.
Bela Lugosi's Dead, Baos, c'est extrait d'un EP de 4 titres qui regroupe d'autres inédits de cette session d'enregistrement. C'était en 1979, ça sort également demain chez Living Records Piass. Et le dernier son de ces 50 nuances de bruit ce soir, c'est avec quelque chose, c'est ce qu'on préfère dans la pop, c'est-à-dire une voix, une mélodie, une tension dans la chanson, l'équation parfaite, celle qu'on entendait dans les Beatles chez Elliott Smith et qu'on retrouve dans le nouveau titre d'un jeune Parisien qui, depuis qu'il a quitté les néons d'une émission de télé-réalité, La Nouvelle Star, c'est en 2014, ne cesse de vouloir dissiper les malentendus à son égard. Et on va l'aider un petit peu ce soir, Mathieu Saïkali, parce qu'il mérite plus, il mérite mieux. C'est un interprète fabuleux, avec sa voix de tête, il peut tout chanter, il l'a prouvé à la télé, mais aussi avec Les Garçons Manqués, ce duo littéraire musical génial qu'il forme depuis 4 ans avec l'écrivain Nicolas Rey. Alors, Mathieu Saïkali, il vient de virer son prénom pour ne garder que son nom, Saïkali, sa maison de disques pour créer son propre label et écrire enfin la pop qui lui ressemble, impressionniste, ultra sensible, une pop dans laquelle il peut enfin respirer à plein poumon.
Je ne me souviens de rien, ni le blanc ni le noir, ni le son dans la voix. Comme un enfant, je m'arrête. J'entends quand les gens parlent, mais je ne comprends pas. Et la vie me fait peur quand je souffle sur un cœur. peut-être arriverai-je enfin à lire les lettres. Je me souviens.
Saïk Ali, le coup de cœur de Marion Guilbeault, un extrait de son double single qui sort demain avec un clip remarquable pour un album à venir en février 2019. Et bien voilà, le NRV première partie c'est fini, on se retrouve dans 15 minutes après le journal avec un hommage à Stan Lee. Vous savez, c'est le super-héros des comics Marvel, l'inventeur, le créateur, le scénariste de Spider-Man, de Hulk. Le rendez-vous est pris ? Alors à tout de suite.